Lucien Levenne, chapitre 56. Monsieur Levenne revint tout joyeux de son élection dans le département de l'Aveyron. L'air est chaud, les perdrix excellentes et les hommes plaisants. Un de mes honorables commettants m'a chargé de lui envoyer 4 paires de bottes bien confectionnées. Je dois commencer par étudier le mérite des bottiers de Paris. Il faut un ouvrage élégant, mais qui pourtant ne soit pas dépourvu de solidité. Quand enfin j'aurai trouvé ce bottier parfait, je lui remettrai la vieille botte que monsieur de Malpas a bien voulu me confier. J'ai aussi un embranchement de route royale de 15 quarts de lieue de longueur pour conduire à la maison de campagne de monsieur Castanet, que j'ai juré d'obtenir de monsieur le ministre de l'Intérieur. En tout, 53 commissions, outre celles qu'on m'a promises par lettre. Monsieur Levenne continua à raconter à madame Levenne et à son fils les moyens adroits par lesquels il avait obtenu une majorité triomphante de 7 voix. Enfin, je ne me suis pas ennuyé un instant dans ce département, et si j'y avais eu ma femme, j'aurais été parfaitement heureux. Il y a bien des années que je n'avais parlé aussi longtemps à un aussi grand nombre d'ennuyeux. Aussi suis-je saturé d'ennuis officiels et de platitudes à dire ou à entendre sur le gouvernement. Aucun de ces benêts du juste milieu, répétant sans les comprendre les phrases de Guizot ou de Thiers, ne peut me donner en écu le prix de l'ennui mortel que sa présence m'inspire. Quand je quitte ces gens-là, je suis encore bête pour 1 heure ou 2. Je m'ennuie mortellement. Et s'ils étaient plus coquins ou au moins fanatiques, dit madame Levenne, ils ne seraient pas si ennuyeux? Maintenant, conte-moi tes aventures de champagner et de camp, dit monsieur Levenne à son fils. Voulez-vous mon histoire longue ou courte?
Longue, dit madame Levenne. Elle m'a fort amusée. Je l'entendrai une seconde fois avec plaisir.
Je suis curieuse, dit-elle à son mari, de voir ce que vous en penserez.
Eh bien, dit monsieur Levenne d'un air plaisamment résigné, il est 10h15. Qu'on fasse du punch et raconte.
Madame Levenne fit un signe au valet de chambre et la porte fut fermée. Lucien expédia en 5 minutes la vanille de Blois et l'élection de Champagner.
C'est à Caen que j'aurai eu besoin de vos conseils. Et il raconta longuement tout ce que nous avons longuement raconté au lecteur.
Vers le milieu du récit, monsieur Levenne commença à faire des questions.
« Plus de détails, plus de détails !» disait-il à son fils. « Il n'y a d'originalité et de vérité que dans les détails. »
« Et voilà comment ton ministre t'a traité à ton retour !» dit monsieur Levenne à 00h30. Il paraissait vivement piqué.
« Ai-je bien ou mal agi ?» dit Lucien.
« En vérité, je l'ignore. Sur le champ de bataille, dans la vivacité de l'action, je croyais avoir 1000 fois raison. Mais ici, les doutes se présentent en foule. »«
Et moi, je n'en ai pas, » dit madame Levenne. « Tu t'es conduit comme le plus brave homme aurait pu faire. »
À 40 ans, tu eusses mis plus de mesures dans ta conduite avec ce petit homme de lettres de préfet, car la haine de l'homme de lettres est presque aussi dangereuse que celle du prêtre. Mais aussi, à 40 ans, tu eusses été moins vif et moins hardi dans tes démarches auprès de messieurs Dijonval et Le Canu, etc. Madame Levenne avait l'air de solliciter l'approbation de monsieur Levenne, qui ne disait rien, et de plaider en faveur de son fils.
« Je vais m'insurger contre mon avocat, » dit Lucien. « Ce qui est fait, et je me moque parfaitement du bruit d'oiseau de la rue de Grenelle. Mais mon orgueil est alarmé. Quelle opinion dois-je avoir de moi-même? Ai-je quelque valeur? Voilà ce que je vous demande, » dit-il à son père. « Je ne vous demande pas si vous avez de l'amitié pour moi et ce que vous direz dans le monde. » J'ai pu altérer les faits en ma faveur en vous les racontant, et alors les mesures que j'ai prises d'après ces faits seraient justifiées à mon insu. Je vous assure que M. Coff n'est point ennuyeux.
Il me fait l'effet d'un méchant, « Maman, vous vous trompez. Ce n'est qu'un homme découragé. S'il avait 400 francs de rente, il se retirerait dans les roches de la Sainte-Baume, à quelques lieues de Marseille. »
« Que ne se fait-il, moine ? » ?»«
Il croit qu'il n'y a pas de Dieu, ou que s'il y en a un, il est méchant. »
« Cela n'est pas si bête, » dit M. Leven. « Mais cela est plus méchant, » dit Mme Leven, « et me confirme dans mon horreur pour lui. »
« C'est bien maladroit, moi, » dit Lucien, « car je voulais obtenir de mon père qu'il entendît le récit de ma campagne, fait par ce fidèle aide-de-camp, qui souvent n'a pas été de la même opinion que moi. Et jamais je n'obtiendrai une seconde séance de mon père si vous ne sollicitez pas avec moi. » dit-il en se tournant vers sa mère.
« Pas du tout, cela m'intéresse. Cela me ramène sur mes lauriers de l'Aveyron, où j'ai eu 5 voix de légitimistes, dont 2 au moins croient s'être damnés en prêtant serment. Mais je leur ai juré de parler contre ce serment. Et ainsi ferai-je, car c'est un vol. »
« Oh, mon ami, c'est tout ce que je crains, » dit Madame Leven.
« Et votre poitrine ?»
« Je m'immolerai pour la patrie et pour mes 2 ultras, à qui j'ai fait commander par leur confesseur de prêter serment et de me donner leur voix. Si votre cove veut dîner demain avec nous, sommes-nous seuls ? » dit-il à sa femme.
« Nous avions un demi-engagement chez Madame de Thémines. Nous dînerons ici, nous 3 et Monsieur Coff. S'il est du genre ennuyeux, comme je le crains, il sera moins ennuyeux à table. La porte sera fermée et nous serons servis par Anselme. »
Lucien amena Coff, non sans peine. « Vous verrez un dîner qui coûterait 40 francs par tête chez Baleine, du rocher de Cancale, et même à ce prix, Baleine ne serait pas sûre de réussir. »
« Ah, pour le dîner de 40 francs, c'est à peu près le taux de ma pension pour 1 mois. »
Coff, par la froideur et la simplicité de son récit, fit la conquête de Monsieur Leven.
Ah, que je vous remercie, monsieur, de n'être pas gascon, lui dit le député de l'Aveyron. J'ai une indigestion de hâbleur, de ces gens qui sont toujours sûrs du succès du lendemain, sauf à vous répondre une platitude, quand le lendemain vous leur reprochez la défaite.
Monsieur Leven fit beaucoup de questions à Coff. Madame Leven fut enchantée d'une 3e édition des prouesses de son fils, et à 9 heures, comme Coff voulait se retirer, Monsieur Leven insista pour le conduire dans sa loge à l'opéra. Avant la fin de la soirée, Monsieur Leven lui dit « Je suis bien fâché que vous soyez au ministère. Je vous aurais offert une place de 4 000 francs chez moi. Depuis la mort de ce pauvre Van Peters, je ne travaille pas assez. Et depuis la sotte conduite du comte de Vèze à l'égard de ce héros-là, je me sens une velléité de faire 6 semaines de demi-opposition. Je suis bien loin d'être sûr de réussir. Ma réputation d'esprit ébouriffera mes collègues, et je ne puis réussir qu'en me faisant une escouade de 15 ou 20 députés. Il est vrai que, d'un autre côté, mes opinions ne gêneront pas les leurs. Quelque sottise qu'ils veuillent, je penserai comme eux, et je les dirai.
« Mais, morbleu, monsieur de Vèze, vous me paierez votre sottise envers ce jeune héros, et il serait indigne de moi de me venger comme votre banquier. Toute vengeance coûte à qui se venge, » ajouta monsieur Leven, se parlant tout haut à soi-même. « Mais comme banquier, je ne puis pas sacrifier 1 iota sur la probité. Ainsi, de belles affaires s'il y a lieu, comme si nous étions amis intimes. »
Et il tomba dans la rêverie. Lucien, qui trouvait la séance de politique un peu longue, aperçut Mademoiselle Raymonde dans une loge au 5e et disparut.
« Aux armes !» dit tout à coup Monsieur Leven à Coff en sortant de sa rêverie. « Il faut agir !»«
Je n'ai pas de montre, » dit Coff froidement. « Monsieur votre fils m'a tiré de Sainte-Pélagie. »
Il ne résistera pas à la vanité d'ajouter « Dans ma faiblesse, j'ai placé ma montre dans mon bilan. »
Parfaitement honnête, mon cher Coff, dit Monsieur Leven d'un air distrait. Il ajouta plus sérieusement,
puis-je compter sur un silence éternel? je vous demande de ne prononcer jamais ni mon nom ni celui de mon fils. »
C'est ma coutume, je vous le promets.
Faites-moi l'honneur de venir dîner demain chez moi. S'il y a du monde, je ferai servir dans ma chambre. Nous ne serons que trois, mon fils et vous, monsieur. Votre raison sage et ferme me plaît beaucoup, et je désire vivement trouver grâce devant votre misanthropie, si toutefois vous êtes misanthrope.
Oui, monsieur, par trop aimer les hommes.
15 jours après, le changement opéré chez monsieur Levenne étonnait ses amis. Il faisait sa société habituelle de 30 ou 40 députés nouvellement élus et les plus sots. L'incroyable, c'est qu'il ne les persiflait jamais. Un des diplomates amis de Levenne eut des inquiétudes sérieuses. Il n'est plus insolent envers les sots, il leur parle sérieusement. Son caractère change, nous allons le perdre.
Monsieur Levenne allait assidûment chez monsieur Devèze les jours où le ministre recevait les députés. 3 ou 4 affaires de télégraphe se présentèrent et il servit admirablement les intérêts du ministre.
« Enfin, je suis venu à bout de ce caractère de fer, » disait M. Devèze. « Je l'ai maté, » se disait-il en se frottant les mains. « Il ne fallait causer. Je n'ai pas fait son fils lieutenant, et il est à mes pieds. »
Le résultat de ce beau raisonnement fut un petit air de supériorité pris par le ministre à l'égard de M. Levenne, qui n'échappa point à ce dernier et fit ses délices. Comme M. Devèze ne faisait pas sa société de gens d'esprit, et pour cause, il ne sut point l'étonnement que causait le changement d'habitude de M. Levenne parmi ces hommes actifs et fins qui font leur fortune par le gouvernement régnant. Ces gens d'esprit qui dînaient habituellement chez lui ne furent plus invités. Il leur donna un dîner ou deux chez le restaurateur. Il n'invita plus de femmes, et chaque jour il avait 5 ou 6 députés à dîner. Madame Levenne ne revenait pas de son étonnement. Il leur disait d'étranges choses, comme « Ce dîner, que je vous prie d'accepter toutes les fois que vous ne serez pas invité chez les ministres ou chez le roi, coûterait mieux de 20 francs par tête chez le meilleur restaurateur. Par exemple, voilà un turbot. » Et là-dessus, l'histoire du turbot, l'énonciation du prix qu'il avait coûté et qu'il inventait, car il ne savait pas ces choses-là.
« Mais lundi passé, ce même turbot, » ajoutait M. Levenne, « quand je dis le même, non, celui-ci s'agitait dans la mer de la Manche, mais enfin un turbot de même poids et aussi frais eût coûté 10 francs de moins. »
Il évitait d'arrêter les yeux sur ceux de sa femme quand il débitait de ces belles choses.
Monsieur Levenne ménageait avec beaucoup d'art l'attention de ses députés. Presque toujours, il leur faisait part de réflexions, comme celle sur le turbot, ou s'il racontait des anecdotes, c'était des cochers de fiacre qui, à minuit, emmenaient dans la campagne des imprudents qui, ne connaissant pas les rues de Paris, hasardent de se retirer à 7 heures. L'étonnement de Madame Levenne était extrême, mais elle n'osait interroger son mari. La réponse eût été une plaisanterie.
Monsieur Levenne réservait toutes les forces de l'esprit de ses députés pour cette idée difficile qu'il leur faisait conclure de 1000 faits différents ou que quelquefois il osait leur présenter directement.
L'union fait la force. Si ce principe est vrai partout, il l'est surtout dans les assemblées délibérantes. Il n'y a d'exception que quand on a un Mirabeau. Mais qui est-ce qui est Mirabeau? Pas moi pour un. Nous compterons pour quelque chose si aucun de nous ne tient avec opiniâtreté à sa façon de voir. Nous sommes 20 amis. Eh bien, il faut que chacun de nous pense comme pense la majorité, qui est de 11. Demain, on mettra un article de loi en délibération dans la Chambre. Eh bien, après dîner, ici, entre nous, mettons en délibération cet article de loi. Pour moi, je n'ai davantage sur vous que d'étudier les roueries de Paris depuis 45 ans. Je sacrifierai toujours mon opinion à celle de la majorité de mes amis, car enfin, 4 yeux y voient mieux que 2. nous mettrons en délibération l'opinion qu'il faudra avoir demain. Si nous sommes 20, comme je l'espère, et que 11 se déclarent pour oui, il faut absolument que les 9 autres disent oui. Quand même, ils seraient passionnément attachés au non. C'est là le secret de notre force. Si jamais nous arrivons à réunir 30 voix sûres sur tous les sujets, les ministres n'auront plus aucune grâce à vous refuser. Nous ferons un petit mémorandum de la chose que chacun de nous désire le plus obtenir pour sa famille. Je parle de choses faisables. Quand chacun de nous aura obtenu de la peur des ministres une grâce à peu près de la même valeur, nous passerons à une seconde liste. Que dites-vous, messieurs, de ce plan de campagne législative ? Monsieur Leven avait choisi les 20 députés les plus dénués d'amis et de relations, les plus étonnés du séjour de Paris, les plus lourds de génie, pour leur expliquer cette théorie et pour les inviter à dîner. Ils étaient presque tous du Midi, Auvergnat ou Jean habitant sur la ligne de Perpignan à Bordeaux. Il n'y avait d'exception que pour M. N. de Nancy, que son fils lui avait présenté. La grande affaire de M. Leven était de ne pas offenser leur amour-propre. Quoique cédant en tout et partout, il n'y réussissait pas toujours. Il avait un coin de bouche moqueur qui les effarouchait. Deux ou trois trouvèrent qu'il avait l'air de se moquer d'eux et s'éloignèrent de ses dîners. Il les remplaça heureusement par ses députés à 3 fils et 4 filles et qui prétendent bien placer leurs fils et leurs gendres. Un mois à peu près après l'ouverture de la session et après une vingtaine de dîners, il jugea sa troupe assez aguerrie pour la mener au feu. Un jour, après un excellent dîner, il les fit passer dans une chambre à part et voter gravement sur une question de peu d'importance que l'on devait discuter le lendemain. Malgré toute la peine qu'il se donna, à la vérité d'une façon très indirecte et avec beaucoup de prudence, pour faire comprendre de quoi il s'agissait à ses députés, au nombre de 19, 12 votèrent pour le côté absurde de la question. M. Leven leur avait promis d'avance de parler en faveur de l'opinion de la majorité. À la vue de cette absurdité, il eut une faiblesse humaine. Il chercha à éclairer sa majorité par des explications qui durèrent une bonne heure et demie. Il fut repoussé avec perte. Ses députés lui parlèrent conscience. Le lendemain, intrépidement, et pour son début à la Chambre, il soutint une sottise palpable. Il fut tympanisé dans tous les journaux, à peu près sans exception. Mais sa petite troupe lui sut un gré infini. Nous supprimons les détails. Infini aussi. Des soins que lui coûtait la conscience de ce troupeau de fidèles périgourdins, auvergnats, etc. Il ne voulut pas qu'on les lui séduisît, et il allait quelquefois avec eux chercher une chambre garnie ou marchander chez les tailleurs qui vendent des pantalons tout faits dans les passages. S'il eût osé, il les eût logés comme il les nourrissait à peu près. Avec des soins de tous les jours, mais qui par leur extrême nouveauté l'amusaient, il arriva rapidement à 29 voix. Alors, M. Leven prit le parti de n'inviter jamais à dîner un député qui ne fût pas des 29. Et presque chaque jour de séance, il en ramenait de la chambre une grande berline pleine. Un journaliste, son ami, feignit de l'attaquer et proclama l'existence de la Légion du Midi, forte de 29 voix. Mais le ministre paie-t-il cette nouvelle réunion, Piet ? Se demandait le journaliste. La seconde fois que la Légion du Midi eut l'occasion de se montrer, révéler son existence, comme lui disait M. Leven, la veille après dîner, M. Leven les fit délibérer. Fidèles à leur instinct, sur 29 voix présentes, 19 furent pour le côté absurde de la question. Le lendemain, M. Leven monta à la tribune et le parti absurde l'emporta dans la chambre à une majorité de 8 voix. Le lendemain, nouvelle diatribe contre la Légion du Midi. M. Leven les conjurait en vain depuis un mois de prendre la parole. Aucun n'osait, et en vérité, ne pouvait. Monsieur Levain avait des amis aux finances. Il distribua parmi ses 28 fidèles une direction de poste dans un village du Languedoc et 2 distributions de tabac. 3 jours après, il essaya de ne pas mettre en délibération, apparemment faute de temps, une question à laquelle un ministre mettait un intérêt personnel. Ce ministre arrive à la chambre, en grand uniforme, radieux et sûr de son fait. Il va serrer la main à ses amis principaux, reçoit les autres à son banc, et, se retournant vers ses bancs fidèles, les caresse du regard. Le rapporteur paraît et conclut en faveur du ministre. Un juste milieu furibond lui succède et appuie le rapporteur. La chambre s'ennuyait et allait approuver le rapport à une forte majorité. Les députés amis de M. Levain le regardaient à sa place, tout près des ministres, ne sachant que penser. M. Levain monte à la tribune, libre de son opinion. Malgré la faiblesse de sa voix, il obtient une attention religieuse. Il est vrai que dès le début de son discours, il trouve 3 ou 4 traits fins et méchants. Le premier fit sourire 15 ou 20 députés voisins de la tribune. Le second fit rire d'une façon sensible et produisit un murmure de plaisir. La chambre se réveillait. Le troisième, à la vérité, fort méchant, fit rire aux éclats. Le ministre intéressé demanda la parole et parla sans succès. Monsieur le comte de Vaise, accoutumé à l'attention de la chambre, vint au secours de son collègue. C'était ce que Monsieur Levain souhaitait avec passion depuis 2 mois. Il alla supplier un collègue de lui céder son tour. Comme le ministre comte de Vaise avait répondu assez bien à une des plaisanteries de Monsieur Levain, celui-ci demande la parole pour un fait personnel. Le président la lui refuse. Monsieur Levain se récrie et la chambre lui accorde la parole au lieu d'un autre député qui cède son tour. Ce second discours fut un triomphe pour Monsieur Levain. Il se livra à toute sa méchanceté et trouva contre Monsieur de Vaise des traits d'autant plus cruels qu'ils étaient inattaquables dans la forme. 8 ou 10 fois, toute la chambre éclata de rire, 3 ou 4 fois, elle le couvrit de bravos. Comme la voix de Monsieur Levain était très faible, on eut entendu, pendant qu'il parlait, voler une mouche dans la salle. Ce fut un succès, comme ceux que l'aimable Andrieux obtenait jadis aux séances publiques de l'Académie. Monsieur de Vaise s'agitait sur son banc et faisait signe tour à tour aux riches banquiers membres de la chambre et amis de Monsieur Levain. Il était furieux. Il parla de duel à ses collègues. « Contre une telle voix ?» lui dit le ministre de la guerre. « L'odieux serait si exorbitant si vous tuiez ce petit vieillard qu'il retomberait sur le ministère tout entier. » Le succès de M. Levain passa toutes ses espérances. Son discours était le débordement d'un cœur ulcéré qui s'est retenu 2 mois de suite et qui, pour parvenir à la vengeance, s'est dévoué à l'ennui le plus plat. Son discours, si l'on peut appeler ainsi une diatribe méchante, piquante, charmante, mais qui n'avait guère le sens commun, marqua la séance la plus agréable que la session eût offerte jusque-là. Personne ne put se faire écouter après qu'il fut descendu de la tribune. Il n'était que 4h30. Après un moment de conversation, tous les députés s'en allèrent et laissèrent seul avec le président le lourd juste milieu qui essayait de combattre avec des raisons la brillante improvisation de M. Levain. Il alla se mettre au lit. Il était horriblement fatigué. Mais il fut un peu ranimé le soir, vers les 9h, quand il eut ouvert sa porte. Les compliments pleuvaient. Des députés qui ne lui avaient jamais parlé venaient le féliciter et lui serrer la main. « Demain, si vous m'accordez la parole, je coulerai à fond le sujet. »« Mais mon ami, vous voulez donc vous tuer ?» répétait Madame Levain, fort inquiète. La plupart des journalistes vinrent dans la soirée lui demander son discours. Il leur montra une carte à jouer sur laquelle il avait écrit 5 idées à développer. Quand les journalistes virent que le discours était réellement improvisé, leur admiration fut sans borne. Le nom de Mirabeau fut prononcé sans rire. Monsieur Levenne répondit à cette louange qu'il prétendait être une injure avec un esprit charmant. « Vous parlez encore à la chambre ?» s'écria un journaliste homme d'esprit. « Eh, parbleu, cela ne sera pas perdu, j'ai bonne mémoire !» Et il se mit à griffonner sur une table ce que Monsieur Levenne venait d'ajouter. Monsieur Levenne, se voyant imprimé tout vif, lui dit trois ou quatre beaux sarcasmes sur Monsieur le comte de Vaise qui lui était venu depuis la séance. À 10 heures, le sténographe du Moniteur vint apporter à Monsieur Levenne son discours à corriger. « Nous faisons comme cela pour le général Foy. » Ce mot enchanta l'auteur. « Cela me dispense de reparler demain, » pensa-t-il. Et il ajouta à son discours 5 ou 6 phrases de bon sens profond, dessinant clairement l'opinion qu'il voulait faire prévaloir. Ce qu'il y avait de plaisant, c'était l'enchantement des députés de sa région qui assistèrent à ce triomphe toute la soirée. Ils croyaient tous avoir parlé. Ils lui fournissaient des raisonnements qu'il aurait pu faire valoir, et il admirait ses arguments avec sérieux. « D'ici à 1 mois, monsieur votre fils sera commis à cheval, » dit-il à l'oreille de l'un d'eux. « Et le vôtre chef de bureau à la sous-préfecture, » dit-il à un autre. Le lendemain matin, Lucien faisait une drôle de mine dans son bureau, à 20 pas de la table où écrivait le comte de Vaise, sans doute furibond. Son Excellence put entendre le bruit que faisaient en entrant dans le couloir les 20 ou 30 commis qui vinrent voir Lucien et lui parler du talent de son père. Le comte de Vaise était hors de lui. Quoique les affaires l'exigeassent, il ne put prendre sur soi de voir Lucien. Vers les 2 heures, il partit pour le château. À peine fut-il sorti que la jeune comtesse fit appeler Lucien. Oh, « Monsieur, vous voulez donc nous perdre? Le ministre est hors de lui, il n'a pu fermer l'œil. Vous serez lieutenant, vous aurez la croix, mais donnez-nous du temps !» La comtesse de Vaise était elle-même fort pâle. Lucien fut charmant pour elle, presque tendre. Il la consola de son mieux et lui persuada ce qui était vrai. C'est qu'il n'avait pas la moindre idée de l'attaque projetée par son père. « Je puis vous jurer, madame, que depuis 6 semaines, mon père ne m'a pas parlé une seule fois sur un ton sérieux. Depuis le long récit de mes aventures à Caen, nous n'avons parlé de rien. »« Ah, Caen, nom fatal! Monsieur de Vaise sent bien tous ses torts. Il devait vous récompenser autrement. Mais aujourd'hui, il dit que c'est impossible, après une levée de bouclier aussi atroce. »« Madame la comtesse, » dit Lucien d'un air très doux. « Le fils d'un député opposant peut être désagréable à voir. Si ma démission pouvait être agréable au ministre... »« Ah, monsieur !» s'écria la comtesse en l'interrompant. « Ne croyez point cela. Mon mari ne me pardonnerait jamais s'il savait que ma conversation avec vous a été maladroite au point de vous faire prononcer ce mot. Désolant pour lui et pour moi. » « Ah, c'est bien plutôt de conciliation qu'il s'agit. Ah, quoi que puisse dire monsieur votre père, ne nous abandonnez jamais. » Et cette jolie femme se mit à pleurer tout à fait. « Il n'est jamais de victoire, même celle de tribune, » pensa Lucien, « qui ne fasse répandre des larmes. » Lucien consola de son mieux la jeune comtesse. Mais en séparant avec soin ce qu'il devait à une jolie femme de ce qui devait être répété à l'homme qu'il avait maltraité à son retour de Caen. Car, évidemment, cette jeune femme lui parlait par ordre de son mari. Il revint sur cette idée. « Mon père est amoureux de politique et passe sa vie avec des députés ennuyeux. Il ne m'a pas adressé la parole depuis 6 semaines. » Après ce succès, M. Levenne passa 8 jours au lit. Un jour de repos aurait suffi, mais il connaissait son pays, où le charlatanisme à côté du mérite est comme le 0 à la droite d'un chiffre et décuple sa valeur. Ce fut au lit que M. Leven reçut les félicitations de plus de 100 membres de la Chambre. Il refusa 8 ou 10 membres, non dépourvus de talent, qui voulaient s'enrôler dans la Légion du Midi. « Nous sommes plutôt une réunion d'amis qu'une société de politique. Votez avec nous, secondez-nous pendant la session. Et si cette fantaisie, qui nous honore, vous dure encore l'année prochaine, ces messieurs, accoutumés à vous voir partager nos manières de voir, toutes de conscience, iront eux-mêmes vous engager à venir à nos dîners de bons garçons. » Il faut déjà le comble de l'abnégation et de l'adresse pour mener 28 de ces oisons-là, pensait M. Leven. Que serait-ce s'ils étaient 40 ou 50, et encore des gens d'esprit, dont chacun voudrait être mon lieutenant, et bientôt évincer son capitaine. Les justes milieux, un peu fins même, accouraient. Ils ne pouvaient se figurer qu'un banquier riche fît sérieusement de l'opposition. M. Devez était allé voir M. de Beausobre, et je ne voudrais pas jurer qu'il ne fût pas question entre ces deux ministres irrités de susciter un duel fatal à Lucien. Ce qui faisait la nouveauté et le succès de la position de M. Leven, c'est qu'il donnait à dîner à ses collègues avec son argent, ce qui, de mémoire de chambre, n'était encore arrivé à personne. M. Piet, jadis, avait eu un dîner célèbre, mais l'État payait. Le surlendemain du succès de M. Leven, le télégraphe apporta d'Espagne une nouvelle qui devait probablement faire baisser les fonds. Le ministre hésita beaucoup à faire donner la vie ordinaire à son banquier. « Ce serait un nouveau triomphe pour lui, » se dit M. Devez, « que de me voir piquer au point de négliger mes intérêts. Mais halte là, serait-il capable de me trahir? Il n'y a pas d'apparence. » Il fit appeler Lucien, et sans presque le regarder en face, lui donna l'avis à transmettre à son père. L'affaire se fit comme à l'ordinaire, et M. Leven en profita pour envoyer à M. Devez, le surlendemain, après le rachat des rentes, le bénéfice de cette dernière opération et le restant de bénéfice des 3 ou 4 opérations précédentes, de telle sorte qu'à quelques centaines de francs près, la maison Leven ne dut rien au compte Devez. Les discours de M. Leven ne méritaient point ce nom. Il n'était pas éloquent, n'affectait point de gravité. C'était du bavardage de société, piquant et rapide, et M. Leven n'admettait jamais la périphrase parlementaire. « Le style noble me tuerait, » disait-il un jour à son fils. « D'abord, je ne pourrais plus improviser, je serais obligé de travailler, et je ne travaillerais pas dans le genre littéraire pour un empire. Je ne croyais pas qu'il fût si facile d'avoir du succès. » Koff était en grande faveur auprès de l'illustre député, faveur basée sur cette grande qualité « Il n'est pas gascon ». M. Leven l'employait à faire des recherches. M. Devez destitua Koff de son petit emploi de 100 louis. « Voilà qui est de bien mauvais goût !» s'écria M. Leven. Il envoya 4 000 francs à Koff. À sa seconde sortie, il alla chez le ministre des Finances, qu'il connaissait de longue main. « Eh bien, parlerez-vous contre moi ?» dit ce ministre en riant. « Certainement, à moins que vous ne répariez la sottise de votre collègue, le comte Devez. » Et il raconta au ministre des Finances l'histoire de cet homme de mérite. Le ministre, homme de sens et tout positif, ne fit pas de questions sur M. Koff. On dit que le comte Devez a employé monsieur votre fils dans nos élections, et que ce fut monsieur Leven fils qui fut attaqué par l'émeute à Blois. Il a eu cet honneur, là. Et je n'ai point vu son nom sur la liste des gratifications apportées au conseil. Mon fils avait effacé son nom, et porté celui de monsieur Koff pour 100 louis, je crois. Mais ce pauvre Koff n'est pas heureux au ministère de l'Intérieur. Ce pauvre Devez a du talent et parle bien à la chambre, mais il manque tout à fait de tact. Voilà une belle économie qu'il a faite là aux dépens de M. Koff.
8 jours après, M. Koff était sous-chef aux finances, avec 6 000 francs d'appointements et la condition expresse de ne jamais paraître au ministère. « Êtes-vous content ?» dit le ministre des Finances à la chambre à M. Leven. « Oui, de vous. » 15 jours après, dans une discussion où le ministre de l'Intérieur venait d'avoir un beau succès, au moment où l'on allait voter, la chambre était toute en conversation et l'on disait de toutes parts autour de M. Leven « Majorité de 80 ou 100 voix !» Il monta à la tribune et débuta par parler de son âge et de sa faible voix. Le silence le plus profond régna à l'instant. M. Leven fit un discours de 10 minutes, serré, raisonné. Après quoi, pendant 5 minutes, il se moqua des raisonnements du comte de Vaise. Et la chambre, si silencieuse, murmura de plaisir 5 ou 6 fois. « Aux voix ! Aux voix !» crièrent en interrompant M. Leven 3 ou 4 juste milieux imbéciles, empressés comme aboyeurs. « Eh bien, oui, aux voix, messieurs les interrupteurs, je vous en défie, et pour vous laisser le temps de voter, je descends de la tribune. Aux voix, messieurs » cria-t-il avec sa petite voix en passant devant les ministres. La chambre tout entière et les tribunes éclatèrent de rire. En vain, le président prétendait-il qu'il était trop tard pour aller aux voix. « Il n'est pas 5 heures !» cria M. Leven de sa place. « D'ailleurs, si vous ne voulez pas nous laisser voter, je remonte à la tribune demain. Aux voix !» Le président fut forcé de laisser voter, et le ministre l'emporta à la majorité de 1 voix. Le soir, les ministres dînèrent ensemble pour laver la tête à M. Devèze. Le ministre des Finances se chargea de l'exécuter. Il raconta à ses collègues l'aventure de Koff, l'émeute de Blois. M. Leven et son fils occupèrent tout le dîner de ces graves personnages. Le ministre des Affaires étrangères et M. Devèze s'opposèrent fortement à toute réconciliation. On se moquait d'eux, on les força de tout avouer. L'aventure de Cortis avec M. de Beausobre, l'élection de Caen mal payée par M. de Vaise, et enfin, malgré leur colère, alors Massimo Dispetto, le ministre de la Guerre alla le soir même chez le roi et fit signer 2 ordonnances. La première nommant Lucien Leven lieutenant d'état-major, la seconde lui accordant la croix pour blessure reçue à Blois dans l'exercice d'une mission à lui confiée. À 11 heures, les ordonnances furent signées. Avant minuit, M. Leven en avait une expédition avec un billet aimable du ministre des Finances. À 1 heure du matin, ce ministre avait un mot de M. Leven qui demandait 8 petites places et remerciait très fraîchement des grâces incroyables accordées à son fils. Le lendemain, à la chambre, le ministre des Finances lui dit « Cher ami, il ne faut pas être insatiable. » « En ce cas, cher ami, il faut être patient. » Et M. Leven se fit inscrire pour avoir la parole le lendemain. Il invita à dîner tous ses amis pour le soir même. « Messieurs, » dit-il en se mettant à table, « voici une petite liste de places que j'ai demandées à Monsieur le ministre des Finances, qui a cru me fermer la bouche en donnant la croix à mon fils. Mais si avant 4 heures, demain, nous n'avons pas 5 au moins de ces emplois qui vous sont dus si justement, nous compterons nos 29 boules noires et 11 autres qui me sont promises dans la salle et qui font 40, et de plus je m'engagerai sur notre bon ministre de l'Intérieur, qui, avec M. de Beausobre, s'oppose seul à nos demandes. Qu'en pensez-vous, messieurs ? » Et, sous prétexte d'interroger ces messieurs sur la question en discussion, le lendemain, il la leur apprit. À 10 heures, il alla à l'opéra. Il avait engagé son fils à attacher sa croix à son habit d'uniforme, qu'il ne portait jamais. À l'opéra, il fit avertir le ministre, sans qu'il parût y être pour rien, de son projet de parler le lendemain et des 40 voix déjà sûres. À 4 heures, à la chambre, 1 quart d'heure avant que l'objet à l'ordre du jour ne fût proposé, le ministre des Finances lui annonça que 5 des places étaient accordées.
« La parole de votre Excellence est de l'or en barre pour moi. Mais les 5 députés pères de famille dont j'ai épousé les intérêts savent qu'ils ont pour ennemis messieurs de Beausobre et de Vèze. Ils désireraient un avis officiel et seront incrédules jusque-là. »
« Leven, ceci est trop fort !» dit le ministre, et il rougit jusqu'au blanc des yeux.
« De Vèze a raison, vous irriteriez des... »
« Eh bien, la guerre !» dit Leven, et un quart d'heure après, il était à la tribune. On alla aux voix, le ministère eut une majorité de 37 voix, laquelle fut jugée fort alarmante. Et enfin, M. Leven eut cet honneur que le Conseil des ministres, présidé par le roi, délibéra sur son compte, et longuement. Le comte de Beausobre proposa de lui faire peur. « C'est un homme d'humeur, » dit le ministre des Finances. « Son associé, Van Peters, me l'a souvent dit. Quelquefois, il a les vues les plus nettes des choses. En d'autres moments, pour satisfaire un caprice, il sacrifierait sa fortune et lui avec. Si nous l'irritons, sa faconde épigrammatique prendra une nouvelle vigueur, et à force de dire 100 mauvaises pointes, il en trouvera une bonne, ou du moins qui sera adoptée pour telle par les ennemis du roi.
On peut l'attaquer dans son fils, dit le comte de Beausobre, ce petit sot grave que l'on vient de faire lieutenant.
Ce n'est pas on, monsieur le comte, dit le ministre de la guerre. C'est moi qui, par métier, doit me connaître en bravoure, qu'il ait fait lieutenant. Quand il était sous-lieutenant de Lancier, il a pu être peu poli un soir chez vous en cherchant le comte de Vèze pour lui rendre compte de l'affaire Cortis, par lui fort bien arrangée.
« Comment ? Peu poli ? » dit le comte. « Un polisson !»«
On dit « peu poli », dit le ministre de la guerre en pesant sur le « on ». On ajoute même des détails, des offres de démission. On raconte toute la scène, et à des gens qui s'en souviennent. »
Et le vieux guerrier élevait la voix. « Il me semble, dit le roi, qu'il y a des lieux et des moments où je voudrais mieux discuter raisonnablement, ne pas tomber dans des personnalités, et surtout ne point élever la voix.
« Sire, dit le comte de Beausobre, « le respect que je dois à votre majesté me ferme la bouche, mais partout ailleurs... »«
Votre Excellence trouvera mon adresse dans l'almanach royal, » dit le ministre de la guerre.
De telles scènes se renouvelaient tous les mois dans le conseil. La réunion des trois lettres, R, O, I, a perdu tout son talisman à Paris. Une foule de demi-sots, qu'on appelait alors l'opposition dynastique et qui se laissait guider par quelques hommes d'une ambition indécise qui auraient pu et n'avaient pas voulu être ministre de Louis-Philippe, firent faire des ouvertures à M. Leven. Il fut profondément étonné.
« Il y a donc quelqu'un qui prend au sérieux mon bavardage parlementaire ? J'ai donc de l'influence ? De la consistance ? Il le faut bien, puisqu'un grand parti... ou, pour parler plus vrai, une grande fraction de la Chambre me propose un traité d'alliance. »
M. Leven eut de l'ambition parlementaire pour la première fois de sa vie. Mais cela lui parut si ridicule qu'il n'osa pas en parler même à sa femme, qui, jusque-là, avait eu jusqu'à ses moindres pensées. Chapitre 57. En arrivant à Paris, Dupoirier fut jeté dans une profonde admiration par le luxe étonnant. Il lui vint bientôt une envie désordonnée, terrible, de jouir de ce luxe. Il voyait M. Berryer en possession de l'admiration de la noblesse et des grands propriétaires. M. Passy était profond dans les affaires et les chiffres du budget. L'immense majorité de la France, celle qui veut un roi soliveau et peu payé ou un président, n'était pas représentée. Elle ne le sera pas de longtemps, car elle ne peut pas nommer un député. Me voici ici pour 5 ans. Je veux être l'O'Connell et le Corbett de la France. Je ne ménagerai rien, et je me ferai une place originale est grande. Je ne pourrai me voir arriver un rival que quand tous les officiers de la garde nationale seront électeurs. Dans 10 ans, peut-être. J'en ai 52. Alors, comme alors, je dirai qu'ils vont trop loin. Je me vendrai pour une belle place inamovible et je me reposerai sur mes lauriers. » En 2 jours, la conversion de ce nouveau saint Paul fut arrêtée. Mais le comment était difficile. Il y rêva plus de 8 jours. L'essentiel était de ne pas sacrifier la religion. À la fin, il trouva un drapeau facilement compris du public. Les « Paroles d'un croyant » venaient d'avoir un très grand succès l'année précédente. Il en fit son évangile, se fit présenter à M. de Lamennais et joua l'enthousiasme le plus vif. Je ne sais si ce disciple de mauvais ton ne fit pas déplorer sa célébrité à l'illustre Breton, mais enfin, lui aussi, d'adorateur du pape, s'était fait amant de la liberté. Elle a une grande âme et un peu étourdie, et oublie souvent de dire aux gens « D'où venez-vous ?» La veille, attaquée à la chambre par les rires de tout le côté droit et les sarcasmes lourds de toute l'aristocratie bourgeoise, il avait eu l'adresse de faire passer par ses gestes et ses mines cet étonnant morceau d'égotisme. « J'entends qu'on m'attaque sur mes façons de dire ma pensée, de gesticuler, de monter à cette tribune. Tout cela est de mauvaise guerre. Oui, messieurs, j'ai vu Paris pour la première fois à l'âge de 52 ans. Mais où avais-je passé ces 52 ans? Dans le fond d'un château, en province, flatté par mes laquais, par mon notaire, et donnant à dîner au curé du lieu? Non, messieurs, j'ai passé ces longues années à connaître les hommes de tous les rangs et à secourir le pauvre. Nés avec quelques 1 000 francs, je les ai sacrifiés hardiment pour faire mon éducation. En quittant l'université à 22 ans, j'étais docteur, mais je n'avais pas 500 francs de capital. Aujourd'hui, je suis riche, mais j'ai disputé cette fortune à des rivaux pleins de mérite et d'activité. J'ai gagné cette fortune, messieurs, non pas en me donnant la peine de naître, comme mes jolis adversaires, mais à force de visites, payer 30 sous d'abord, puis 3 francs, puis 10 francs, et, je l'avoue à ma honte, je n'ai pas eu le temps d'apprendre à danser. Maintenant, que messieurs les orateurs, beaux danseurs, attaquent le manque de grâce du pauvre docteur de campagne. En vérité, ce sera là une belle victoire. Pendant qu'il prenait des leçons de beau langage et d'art de parler, sans rien dire à l'Athénée ou à l'Académie française, moi, je visitais des chaumières dans la montagne, couvertes de neige, et j'apprenais à connaître les besoins et les vœux du peuple. Je suis ici le représentant de 100 000 Français non électeurs auxquels j'ai parlé dans ma vie. Mais ces Français ont grand tort. Ils sont peu sensibles aux grâces. » Un jour, Lucien fut bien surpris en voyant entrer dans son bureau M. Dupoirier, dont il avait remarqué le nom parmi les députés élus. Lucien lui sauta au cou et les larmes lui vinrent aux yeux. Dupoirier était décontenancé. Il avait hésité pendant 3 jours à venir au bureau de Lucien. Il avait peur. Le cœur lui avait battu violemment avant de se faire annoncer chez Leven. Il tremblait que le jeune officier ne sût l'étrange tour qu'il lui avait joué pour le faire déguerpir de Nancy. « S'il le sait, il me tue !» Dupoirier avait de l'esprit, de la conduite, du talent pour l'intrigue, mais il avait le malheur de manquer de courage de la façon la plus pitoyable. Sa profonde science médicale s'était mise au service d'une lâcheté rare en France. Son imagination lui représentait les suites chirurgicalement tragiques d'un coup de poing ou d'un coup de pied au cul bien asséné. Or, c'est précisément le traitement qu'il redoutait de la part de Lucien. C'est pour cela que depuis 10 jours qu'il était à Paris, il n'avait pas osé venir le chercher. C'est pour cela qu'il se présentait à lui plutôt dans son bureau, dans une sorte de lieu public, et où il était entouré de garçons de bureau et d'huissiers, que chez lui.
L'avant-veille, il avait cru apercevoir Lucien dans une rue et avait à l'instant rebroussé chemin et pris une rue transversale. Enfin, lui avait suggéré son esprit, il vaut mieux, si un malheur doit arriver, il entendait un soufflet ou un coup de pied, et qu'il arrive sans témoin et dans une chambre qu'au milieu de la rue. Je ne puis, étant à Paris, ne pas le rencontrer tôt ou tard. Pour tout dire, malgré son avarice et la peur qu'il avait des armes à feu, le malin du Poirier avait acheté une paire de pistolets qu'il avait actuellement dans ses poches. « Il est fort possible, se disait-il, qu'à l'époque des élections où tant de haines se sont soulevées, M. Leven ait reçu une lettre anonyme, et alors... » Mais Lucien l'embrassait les larmes aux yeux. « Ah, il est bien toujours le même !» pensa du Poirier. Et dans ce moment, il éprouva pour notre héros un sentiment de mépris inexprimable. En le voyant, Lucien crut être à Nancy, à 200 pas de la rue habitée par Madame de Chastelet. Du Poirier lui avait peut-être parlé depuis peu. Il le regarda avec une attention tendre. « Mais quoi ? » se dit Lucien. « Il n'est plus sale ! Un habit neuf, des pantalons, un chapeau neuf, des bottes neuves, cela ne s'est jamais vu. Quel changement! Mais comment a-t-il pu se résoudre à cette dépense effroyable? » Comme les provinciaux, du Poirier s'exagérait la pénétration et les crimes de la police. Voilà une rue bien solitaire. Si le ministre dont je me suis moqué ce matin me faisait saisir par 4 hommes et jeter dans la rivière, je ne sais pas nager. D'ailleurs, une fluxion de poitrine est bientôt prise. Mais ces 4 hommes ont des femmes, des maîtresses, des camarades, ils sont soldats. Ils bavarderaient. D'ailleurs, croyez-vous les ministres assez coquins? Ils sont capables de tout, reprit du Poirier avec chaleur. On ne guérit pas de la peur, pensa Lucien. Et il accompagna le docteur. Quand ils furent le long du mur d'un grand jardin, la peur du docteur redoubla. Lucien sentait trembler son bras. « Avez-vous des armes ? » dit du Poirier. « Si je lui dis que je n'ai que ma petite canne, il est capable de tomber de peur et de me tenir ici 1 heure. »«
Rien que des pistolets et un poignard, »
répondit Lucien avec la brusquerie militaire. La peur du docteur redoubla. Lucien entendit ses dents claquer. Si ce jeune officier sait le tour que je lui ai joué dans l'antichambre de Madame de Chastelet lors de l'affaire du faux enfant, quelle vengeance il peut prendre ici! En passant un fossé un peu large à cause de la pluie récente, Lucien fit un mouvement un peu brusque.
« Ah, monsieur ! » s'écria le docteur d'un ton déchirant. « Pas de vengeance contre un vieillard !»«
Décidément, il devient fou !» « Mon cher docteur, vous aimez bien l'argent, mais à votre place, je prendrais une voiture, ou je me priverais d'être éloquent. »
« Je me le suis dit 100 fois, reprit le docteur, mais c'est plus fort que moi. Quand une idée me vient, je me sens comme amoureux de la tribune. Je lui fais les yeux doux, je suis furieux de jalousie contre celui qui l'occupe. Quand ils font silence, quand les tribunes, toutes ces jolies femmes surtout, sont attentives, je me sens un courage de lion. Je dirai son fait à Dieu le Père. C'est le soir, après dîner, que les transes me prennent. Je veux louer une chambre dans le palais royal. Pour la voiture, j'y ai pensé. Il séduirait mon cocher pour me faire verser. J'en ferai bien venir un de Nancy, mais M. Ray, en partant, ou M. de Vassigny, lui promettront 25 louis pour me casser le cou. » Un homme ivre s'approcha d'eux. Le docteur serra le bras de Lucien outre mesure. « Ah, mon cher ami !» lui dit-il un instant après. « Que vous êtes heureux d'avoir du courage !» Lucien Leven, chapitre 58. Un jour, Lucien entra tout ému dans le cabinet du ministre. Il venait de voir dans un rapport mensuel de police communiqué par le ministre de l'Intérieur à M. le maréchal, ministre de la Guerre, que le général Farry avait fait de la propagande à Cercé,
où il avait été envoyé par le ministre de la guerre 8 ou 10 jours avant les élections de, pour calmer un commencement de mouvement libéral. Rien au monde ne peut être plus faux. Le général est dévoué de cœur à son devoir. Il a encore tout l'honneur que l'on a à 25 ans. Le monde ne l'a point corrompu. Être envoyé par le gouvernement dans un pays pour faire une chose et faire le contraire lui ferait horreur. Étiez-vous présent, monsieur, à l'événement au sujet duquel a été fait le rapport que vous accusez d'inexactitude ? Non, monsieur le comte, mais je suis sûr que le rapport a été fait par un homme de mauvaise foi. Le ministre était prêt à partir pour le château. Il sortit avec humeur et dans la pièce voisine dit des injures à son chasseur qui lui passait sa pelisse. S'il gagnait un écu à cette calomnie, je le comprendrais, se dit Lucien. Mais à quoi bon mentir d'une façon si nuisible? Le pauvre Fary approche de 65 ans. Il ne faut à la guerre qu'un chef de bureau qui ne l'aime pas. Il profite de ce rapport et fait mettre à la retraite un des meilleurs officiers de l'armée, un homme honnête par excellence. L'ancien secrétaire général de M. le comte de Vèze, dans la dernière préfecture qu'il avait occupée avant que Louis XVIII l'appelât à la chambre des pairs, était à Paris. Lucien, le trouvant le lendemain dans les bureaux de la rue de Grenelle, lui parla du général Fary. Qu'est-ce que le patron peut avoir contre lui ? Le ministre a cru dans un temps que Fary faisait la cour à sa femme. Quoi ? À l'âge du général ? Il amusait la jeune comtesse qui mourait d'ennui à... Mais je parierais qu'il n'y a jamais eu un mot de galanterie prononcé entre eux. Et vous croyez que pour une cause aussi légère... Ah, que vous ne connaissez pas le patron. C'est un amour-propre qui se pique d'un rien et il n'oublie jamais. Le cœur de cet homme, s'il a un cœur, est un trésor de haine. S'il avait le pouvoir d'un Carrier ou d'un Joseph Lebon, il ferait guillotiner 500 personnes pour des offenses personnelles, dont les 3/4 auraient oublié jusqu'à son nom s'il n'était pas ministre. Vous-même, qui le voyez tous les jours et qui peut-être lui tenait tête quelquefois, s'il avait le pouvoir suprême, je vous conseillerais de passer le Rhin au plus vite. Lucien courut chez M. Crapard aîné, directeur de la police du royaume sous le ministre. « Quelle raison donnerais-je à ce coquin ?» se disait Lucien en traversant la cour et les passages qui conduisent à la direction de la police. « La vérité, l'innocence du général, sa pauvreté, mon amitié pour lui, toute chose également ridicule aux yeux d'un crapard. Il me prendra pour un enfant. » L'huissier, qui respectait beaucoup monsieur le secrétaire intime, lui dit à mi-voix que Crapard était avec 2 ou 3 observateurs de très bonne compagnie. Lucien regardait par la fenêtre les équipages de ces messieurs. Rien ne lui venait. Il les vit monter en voiture. « De charmants espions, ma foi, se dit-il. On n'a pas l'air plus distingué. » L'huissier vint l'avertir. Lucien le suivait, tout pensif. Il était fort gai en entrant dans le bureau de M. Crapard. Après les premiers compliments, « Il y a de par le monde un maréchal de camp, Fary. » Crapard prit l'air grave et sec. « Cet homme est un pauvre diable, mais ne manque pas d'une certaine probité. Il paie chaque année 2 000 francs à mon père sur sa solde. Autrefois, dans un moment d'imprudence, mon père lui a prêté 1 000 louis, sur lesquels le Fary doit bien encore 9 ou 10 000 francs. Nous avons donc un intérêt direct à ce qu'il soit employé encore 4 ou 5 ans. » Capard restait pensif. « Je ne vais pas par de chemin avec vous, mon cher collègue. Vous allez voir l'écriture du patron. » Crapard chercha un papier pendant 7 à 8 minutes, ensuite se mit à jurer. « Est-ce qu'on m'égare mes minutes ?» Un commis à mine atroce entra. Il fut fort maltraité. Pendant qu'on l'injuriait, cet homme se mit à revoir les dossiers que Crapard avait parcourus et dit enfin « Voici le rapport numéro 5 du mois de... »« Laissez-nous !» lui dit Crapard avec la dernière malhonnêteté. « Voici notre affaire !» dit-il à Lucien d'un air tranquille. Il se mit à lire à demi-bas.
Hé hé hé. Ah, voici. Et il dit en pesant sur les mots. La conduite du général Fary a été ferme, modérée. Il a parlé aux jeunes gens d'une façon persuasive. Sa réputation d'honnête homme a beaucoup fait.
Voyez-vous cela ? Dit Crapard.
Eh bien, mon cher, biffé, biffé, et de la main de son Excellence.
Tout serait allé mieux encore, mais, chose déplorable, le général Fary a fait de la propagande tout le temps qu'il a été à Cercé et n'a parlé que des 3 journées.
Cela vu, mon cher collègue, je ne puis rien faire pour la rentrée de vos 10 000 francs. La phrase que vous venez de lire a été portée ce matin au ministère de la guerre.
« Gare la bombe !» dit Crapard avec un gros rire commun. Lucien lui fit 1000 remerciements et alla au ministère de la guerre, au bureau de la police militaire. « Le ministre de l'Intérieur m'envoie en toute hâte. On a inséré dans la dernière lettre une feuille du brouillon biffé par le ministre.
« Voici votre lettre, » dit le chef de bureau. « Je ne l'ai pas encore lue. Remportez-la si vous voulez. » Mais rendez-la-moi avant mon travail de demain, à 10 heures.
Si c'est une page du milieu, j'aime mieux l'enlever ici, dit Lucien.
Voici des grattoirs de la Sandarac. Faites à votre aise.
Lucien se mit à une table. Eh bien, votre grand travail sur les préfectures après les élections avance-t-il? J'ai un cousin de ma femme sous-préfet à... pour lequel on nous a promis le Havre ou Toulon depuis 2 ans.
Lucien répondit avec le plus grand intérêt et de façon à obliger le chef de bureau de la police militaire. Pendant ce temps, il recopiait la feuille du milieu de la lettre signée Comte de Vèze. La phrase relative au général Fary était l'avant-dernière du verso à droite. Levène eut soin de ne pas serrer ses mots et ses lignes, et fit si bien qu'il supprima les 7 lignes relatives au général Fary, sans qu'il y parût.
« J'emporte notre feuille, » dit-il au chef de bureau, après un travail de 3 quarts d'heure.
« À votre aise, monsieur, et dans l'occasion, je vous recommande notre petit sous-préfet. »«
Je vais voir son dossier et y mettre ma recommandation. »
Me voilà faisant pour le général Fary ce que Brutus n'aurait pas fait pour sa patrie. Un commis de la maison Van Peter, Levène et compagnie, qui partait pour l'Angleterre 8 jours après, mit à la poste, à 20 lieues de la résidence du général Fary, une lettre qui lui donnait l'éveil sur la haine toujours vivante que le ministre de l'Intérieur avait pour lui. Sans signer, Levène cita 2 ou 3 phrases de leur conversation sans témoin, qui nommait au bon général l'auteur de la vie salutaire.